À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
Lyon Première.
Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère évidemment. Avec vous, Pierre Oliver, bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes évidemment le maire du 2e arrondissement, que vous êtes le président du groupe d'opposition au conseil municipal de Lyon, par ailleurs conseiller régional. La question que je me pose souvent, ou en vous recevant, puisque c'est je crois la troisième fois qu'on se voit, est-ce que c'est le candidat d'opposition que je reçois ou le futur candidat à la mairie de Lyon, j'allais dire?
Bah, pour l'instant, j'ai pas encore déclaré ma candidature à la mairie de Lyon. En tout cas, une chose est certaine, c'est vrai que nous, on est en train de se préparer pour les prochaines échéances. Elles arrivent dans 2 ans. 2 ans, finalement, c'est un temps assez court. Et donc, moi, ce qui compte pour moi actuellement, c'est de travailler justement avec des équipes, des citoyens issus de chaque arrondissement pour que demain, nous soyons en mesure de porter le projet qui nous permettra de finalement tourner la page de cette expérience écologiste qui d'ailleurs mène notre ville malheureusement dans le mur et notre agglomération. Donc en tout cas, moi, à l'heure où on se parle, je me prépare, mais je suis pas encore
officiellement candidat. On en reparlera de toute façon, évidemment, dans une deuxième et une troisième partie de cette émission. Le point de départ de notre entretien, vous le savez, c'est souvent une question d'actualité. On est dans la semaine, dans la journée, hier, de la journée abusivement appelée la journée de la femme et pour les droits des femmes. Est-ce que, en tant qu'élu, homme politique, citoyen, tout simplement, c'est un sujet de préoccupation, d'intérêt, d'attention? Qu'est-ce que vous avez prévu pour toute cette semaine? Est-ce qu'il y a des manifestations particulières, des soutiens que vous avez apportés à cette cause?
Oui, bah pour nous, c'est toujours très important de célébrer le 8 mars. Moi, depuis que je suis maire à la mairie du 2e arrondissement, on organise tous les ans une cérémonie à thème autour de personnalités des femmes qui ont marqué, des femmes historiques du quartier qui ont pu marquer le 2e arrondissement. Et donc chaque année, on renouvelle cette manifestation. Et pour moi, plus largement, je pense que c'est important justement de travailler ensemble sur le droit des femmes, sur l'évolution dans la société que l'on a. Parce que finalement, moi, ce que je constate beaucoup, c'est que les femmes, de plus en plus, sont les droits des femmes sont menacés par le fondamentalisme religieux ou par le wokisme. Et donc, je pense que nous, responsables politiques, notre responsabilité est justement de veiller à cela. Vous voyez, moi, en tant que maire, à la mairie, ma directrice générale est une femme, ma directrice de cabinet est une femme. 75% des équipes de la mairie du 2e arrondissement sont féminines. Et je pense que c'est un plus pour notre mairie, mais même plus largement.
Est-ce que c'est aussi un combat qui se fait, j'allais dire, au niveau de la parité? Parce que on entend souvent ça, et puis on s'aperçoit quand même que, soit dans les candidats, soit dans les têtes de liste, soit dans les vrais élus, hein, entre guillemets, à des fonctions importantes, les femmes ont encore un peu de mal. C'est un monde qui demeure quand même assez machiste, entre guillemets, ou un peu à l'ancienne, même si vous êtes jeune dans la génération par rapport à ça.
Moi, j'ai envie de dire, depuis que je fais de la politique, j'ai toujours connu la parité, elle est obligatoire depuis que j'ai le droit de vote, hein, donc je mesure tout le chemin qui a été accompli d'ici là, et je pense que d'ailleurs tous les gens qui ont mon âge, c'est-à-dire une trentaine d'années, sont pleinement imprégnés justement de la cause des femmes et ont envie justement de continuer cet élan et ce mouvement global pour aider les femmes à évoluer et à progresser dans notre société. Après, en politique, voilà, moi je vois aussi, comme vous, hein, vous prenez l'exemple à Lyon, le président de la métropole est un homme, le maire de Lyon est un homme. Dès qu'il s'agit pour cette mairie de se répartir les grandes, les grandes SEM ou le Citral par exemple, le Citral c'est un homme, Lyon Parc Auto c'est un homme, la SPLM c'est un homme,
à la région c'est un homme.
À la région, c'est un.
Mais il y a souvent un binôme. Oui, mais la première adjointe ou la première présidente, c'est une femme. Mais c'est vrai que les femmes souvent disent, il y a un binôme, mais on est toujours un peu derrière.
Après, quand vous prenez, les différentes structures de la région, que ce soit l'agence de l'orientation pilotée par une femme, voilà, je veux dire là-dessus, pour nous, en tout cas, il y a un vrai intérêt à justement répartir les rôles. Et puis, au-delà de ça, on a aussi un vrai enjeu, quelle que soit la famille politique, c'est aussi d'avoir à l'instant donné, le meilleur candidat ou la meilleure candidate. Moi, je rappelle qu'à la présidentielle, j'ai soutenu Valérie Pécresse, qui était une femme. À l'époque, d'ailleurs, c'était dans le débat, je me souviens, à la primaire, un sujet qui revenait régulièrement en disant, voilà, la droite, vous ne mettez pas assez en avant les femmes. Moi, dès la primaire, j'avais soutenu Valérie Pécresse. Je l'ai soutenue pendant la présidentielle jusqu'au bout. Voilà, à quelque part...
C'est à la fois un sujet, dire, ça ne doit pas être le seul critère.
Non, mais
ça aussi.
Enfin, pour moi, et à ce moment-là, et c'est pour ça que je vous dis que je fais partie d'une génération où, voilà, on est déjà beaucoup plus en avance peut-être que d'autres, mais le critère homme-femme n'a pas compté au moment de mon choix. J'ai juste choisi la personne qui, de mon point de vue, était la plus compétente pour, sur les choix que j'avais, pour pouvoir gérer le destin de la France. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais soutenu Valérie Pécresse.
Alors on est dans une semaine effectivement liée à cette cause, et une semaine qui est historique, puisqu'il y a quelques jours, le Congrès réuni a voté de manière très très large la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que pour vous, c'est une avancée historique? Est-ce que c'était un moment important? Est-ce que vous considérez que c'était quelque chose qui pouvait être remis en cause?
Je ne sais pas si ça pouvait être remis en cause, mais pour moi, c'est une bonne chose. Et de mon point de vue, je suis ravi que le Parlement ait voté à une très large majorité l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que j'ai été très ému par le discours du sénateur Maluret, qui, à la tribune, a rappelé l'expérience qu'il avait connue en tant que médecin en Afrique, où justement, une femme était... victime suite à un avortement du pouvoir en place, et j'ai trouvé que ce témoignage était poignant.
Il est connu, Claude Maluret, d'ailleurs l'ancien maire de Vichy, pour ses discours très très précis et très pointus.
Et à quelque part, je trouve ça bien d'avoir ce type de témoignage là aussi pour rappeler la force que l'on a en France d'être précurseur. Simone Veil l'avait été à l'époque, et aujourd'hui, voilà, on a nos responsables politiques, d'ailleurs, quelle que soit la tendance, parce que quand vous regardez, toutes les familles politiques l'ont majoritairement voté. Oui. Il y a eu des contres dans ma famille politique,
oui,
mais dans d'autres.
Il y a eu aussi la possibilité, je crois, qui a été offerte d'une sorte de liberté de conscience. Mais sur ces sujets un peu sociétaux, et par rapport, vous l'avez évoqué, à une droite parfois un peu plus classique ou traditionnelle, est-ce que les sujets de société, c'est aussi des enjeux pour votre famille, pour la droite? On parle de l'IVG, bientôt il y aura des débats sur la fin de vie, etc. Est-ce que vous emparez aussi, en tant que famille politique, de ces questions, ou vous attachez d'abord à des enjeux plus régaliens, etc., où les deux doivent être pris en compte?
Quand vous faites de la politique, vous vous intéressez à tous les sujets qui composent le monde dans lequel on est, qui régit le monde dans lequel on est. Donc évidemment, tout ce qui va être de l'ordre sociétal nous concernera et nous touchera. Après, vous savez, moi je suis plutôt libéral, donc j'ai une tendance à être globalement pour le progrès. Et je pense que notre famille politique a tout intérêt à travailler dans ce sens. Après, encore une fois, moi je suis aussi pour que chacun ait la liberté, eu égard peut-être à ses croyances, à ses convictions personnelles, de pouvoir être libre dans ses votes et dans ses choix. Mais en tout cas, moi, le mien, il est très clair et il est assumé.
Alors, puisqu'on parlait de politique, on va rester un petit peu dans une forme d'actualité, même si on parlera aussi après du fond de vos propositions, puisque je pense qu'il faut qu'on dépasse aussi maintenant et qu'on rentre dans une nouvelle phase, un peu avec nos invités, de ce qui va se passer, de la préparation de l'avenir. Le député Vincent Day vient d'être exclu des LR, hein, il y a quelques jours. Est-ce que c'est un sujet? C'est quand même une personnalité assez importante. C'est un parlementaire qui s'est beaucoup rapproché, etc., du camp macroniste, entre guillemets. Est-ce que ça vous interpelle? Ça vous intéresse, ça pose des questions, ou c'est après chacun sa vie? Et pourquoi d'ailleurs il a été exclu?
Après, moi, je suis pas dans le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Moi, à titre personnel, je m'entends bien avec Alexandre Vincent Day. On a l'occasion d'échanger régulièrement. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile quand vous êtes dans une famille politique, si les choix que font votre famille politique ne sont plus les vôtres. Voilà, je pense que
il faut en tirer les conséquences. Quoi.
Non, mais je pense que c'est aussi à l'intéressé de clarifier sa situation. Bon, voilà, après, c'est, je pense, un conflit qu'il y a en interne au groupe à l'Assemblée nationale depuis maintenant 2 ans. Et voilà, le groupe a voté. Et après, nous, localement, je suis convaincu que ça ne nous empêchera pas de travailler ensemble avec Alexandre. On a travaillé ensemble déjà pendant 4 ans. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait aujourd'hui, parce que on n'est plus de la même famille politique. Moi, j'espère vraiment que sur les prochaines échéances, qu'elles soient municipales ou métropolitaines, on aura tous vocation à travailler en commun, à quel que vous soyez, quels soient d'ailleurs des gens plutôt proches de la majorité présidentielle, des gens qui soient peut-être plus à droite que moi. Je suis convaincu que pour réussir à renverser la tendance à Lyon, on va avoir besoin, à Lyon et dans la métropole, on va avoir besoin d'une union large, et donc j'espère que ce sera avec notamment des gens comme Alexandre, mais d'autres.
Bon, mais on reparlera de tout ça, et puis de vos propositions, de votre constat sur l'actuelle gouvernance à la mairie de Lyon dans une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère, toujours avec vous, Pierre-Oliver. Je rappelle que vous êtes maire du 2e arrondissement, président du groupe d'opposition au conseil municipal et conseil régional. On parlait justement un petit peu de ça dans la première partie, sur le rôle, la posture d'opposant. Est-ce que c'est pas un peu long d'être dans l'opposition? Est-ce que c'est pas compliqué à un moment? Comment est-ce qu'on trouve dans la durée la manière d'à la fois être constructif, un peu critique? Comment est-ce qu'on s'installe dans un costume d'opposant, en fait?
Ah, je vous confirme que le rôle d'opposant n'est pas le job le plus passionnant de la vie politique française et en général. Je pense objectivement que c'est une bonne formation, parce que l'opposition vous oblige à analyser tous les dossiers sans avoir, l'apport des différents services que vous pouvez avoir dans une collectivité. Et donc, c'est vous, personnellement, avec quelques membres de votre équipe, qui devez étudier chaque dossier, pointer ce qui dysfonctionne. Et quand vous faites bien le travail d'opposition, ben vous évitez aussi que la collectivité dans laquelle vous êtes élu commette des erreurs, soit dans l'irrégularité, soit hors la loi. Et à quelque part, ce travail-là est en partie intéressante. Je pense surtout, moi, que c'est une formation pour la suite. Des exemples d'élus qui sont passés par l'opposition pendant des années avant de réussir à gagner une collectivité. On a connu Gérard Collomb, par exemple, hein, qui pendant des années a été
20 ans,
opposant à la mairie de Lyon, que ce soit opposant de Michel Noir, que ce soit opposant de Raymond Barre. Eh bien voilà, le jour où il est arrivé en responsabilité à la ville de Lyon, il connaissait les dossiers de la ville de Lyon, il connaissait l'historique de la ville de Lyon, et à quelque part, c'est aussi ce qui lui a permis d'être très efficace dans la gestion courante de la ville et dans les projets qu'il a pu porter. D'ailleurs, c'est ce qui manque en partie à l'exécutif, qu'il soit à la ville ou à la métropole. Il manque d'expérience, ils n'ont pas connu l'opposition, ils arrivent directement en responsabilité, et ce qu'on a vu, c'est que pendant 2 ans, 3 ans, il ne s'est strictement rien passé, aucun projet n'a été lancé, et d'ailleurs on se demande s'il y aura réellement des projets structurants qui seront menés d'ici la fin du mandat, puisque le calendrier électoral leur est défavorable. C'est vrai que les 6 ans de mandat correspondent à quelque part aux besoins que l'on a pour pouvoir porter des projets dans le monde dans lequel on est.
Mais c'est souvent d'ailleurs pour ça que il y a une prime au premier mandat. C'est-à-dire que souvent, on reconduit une équipe parce qu'on se dit, ouais, ils ont peut-être pas eu le temps, etc. Vous avez pas peur un peu de ça non plus?
Ça peut arriver. Enfin, je veux dire, j'ai des exemples et des contre-exemples, hein. Il y a des mairies qui changent de maire à chaque élection, hein. Mais, et d'ailleurs, à la ville de Lyon, avant Gérard Collomb, il y a eu un certain turnover, si je puis dire, dans les maires que nous avons connus. Mais si vous réalisez pas ce que je disais, vos projets dès le début du mandat, si vous emparez pas dès le début de la mise en place de votre programme, et c'est d'ailleurs l'importance du travail que nous menons actuellement, bah vous n'êtes pas opérationnel, vous n'avez pas de bilan, et à quelque part, bah ça vous affaiblit aussi sur les échéances suivantes. Alors c'est facile d'arriver en disant, bah voilà, pendant 6 ans, on n'a rien fait, surtout, refaites-nous confiance, cette fois vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire quelque chose de pertinent. Bon, jusque-là, on a surtout vu des polémiques, on a surtout vu des mauvaises postures pour la ville de Lyon, quitte à se faire un peu humilier nationalement. Voilà, moi je pense que maintenant, les Lyonnais en ont ras-le-bol de cette politique de la com qui nous mène droit dans le mur. Ils attendent des projets qui vont nous permettre de développer notre territoire, ils attendent des projets qui vont nous permettre de sortir de la crise du logement, ils attendent des projets qui vont nous permettre de faire la transition écologique, ils attendent des projets pour régler les problèmes de sécurité à Lyon. Et moi, à titre personnel, avec toute l'équipe que j'ai à la ville de Lyon et avec tous les citoyens qui nous accompagnent, c'est ce sur quoi nous travaillons maintenant. C'est-à-dire, on crée des groupes de travail pour pouvoir justement être en mesure, quartier par quartier, rue par rue, d'avoir le projet qui colle le plus aux attentes de chacun des habitants de Lyon dans chaque arrondissement. C'est ça qui compte pour nous. Vous savez, c'est un travail qui est long, qui est dur, mais quand on est dans l'opposition, on sait aussi ce qui dysfonctionne. On le voit là où les choses ne sont pas assurées. Et à quelque part, ben, ça nous offre aussi la possibilité de pouvoir travailler le bon sujet au bon endroit. Et donc, voilà, nous, on est en tout cas pleinement investis sur cette mission-là.
Alors, je vous entendais dans une première partie de notre émission dire qu'il fallait tourner la page. J'ai le souvenir d'avoir eu, il n'y a pas si longtemps, Véronique Sarcelli, qui, avec Gilles Gascon, disait il faut virer les verts. Hein, c'était quasiment ça. Est-ce que c'est un peu la seule motivation ou est-ce que derrière, il y a autre chose? C'est-à-dire qu'il n'y a rien à garder? Tout est acheté dans l'actuelle gouvernance de la mairie de Lyon?
Non, parce que, encore une fois, enfin, moi, je pointe ce qui dysfonctionne. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels on est tout à fait en phase. On est capable de travailler ensemble. Enfin, je veux dire, on n'est pas une secte. Hein. D'ailleurs, je pense que le problème de la radicalité de la position, elle vient pas forcément de notre camp. Mais pour autant, quand on prend la ligne globale qui est menée à Lyon sur la sécurité, j'en parlais, le maire de Lyon refuse d'installer des caméras. Il recrute pas de policiers municipaux. La délinquance à Lyon, aujourd'hui, c'est un problème majeur auquel sont confrontés nos concitoyens.
Vous êtes exprimé d'ailleurs sur des problèmes de scooters il n'y a pas très longtemps.
Bien sûr. Non, mais écoute, problème sur le cours. Mais des problèmes, on en a, je pourrais vous en citer beaucoup. Et plus largement, la question du logement, on peut l'évoquer.
Bien sûr.
Ce qui s'est passé depuis le début du mandat, c'est que la mairie a décidé de bloquer un maximum de permis de construire. Ce qui fait que derrière, eh bien, nous avons jamais eu aussi peu de logements mis sur le marché à Lyon. Et donc, si vous voulez vous loger à Lyon, à l'heure où on se parle, il faut avoir des moyens que peu de gens ont. Alors la mairie nous a dit, on va mettre avec la métropole l'encadrement des loyers, ça va résoudre tous les problèmes d'augmentation.
Ils ont dégagé une enveloppe, je crois, de 10 millions pour essayer de finir un certain nombre de programmes.
Enfin, à l'époque de Gérard Collomb, c'était 7000 logements qui étaient construits dans l'agglomération lyonnaise. Cette année, si on arrive à 2000, c'est un record. Voilà, on n'arrive pas à loger les gens qui arrivent sur le territoire si on n'a pas de logements qui se construisent. Vous savez, moi, j'étais l'autre jour avec quelqu'un dans le deuxième arrondissement qui me disait, tiens, je vais mettre un appartement en location. Il a été sur le Bon Coin, comme font beaucoup de propriétaires. En 2 heures, il a eu 145 appels. Voilà la réalité aujourd'hui. Et vous imaginez bien que cette personne, quand ça va être le moment de choisir le locataire pour son appartement, il va prendre celui qui a le plus de garants, celui qui a le plus de garanties financières. Et donc, tous ceux qui sont exclus de cette politique, ce sont les classes moyennes et les classes populaires. C'est ça, aujourd'hui, la réalité de ce qui se passe à Lyon avec les écologistes. C'est pour ça qu'on a aussi un tel clivage. Ça n'existait pas autant avec Gérard Collomb. On avait des sujets sur lesquels on était en désaccord. On a été dans son opposition. Mais il faut reconnaître que sur une très large partie des sujets, on était en phase. Là, les clivages sont très marqués. C'est d'ailleurs le propre de cette gauche, d'extrême gauche même, on peut dire, qui justement a une vision radicale sur un certain nombre de sujets, qui ne prend pas en compte le besoin réel des habitants. Et c'est ça aujourd'hui que beaucoup de gens leur reprochent, mais moi aussi, quand vous regardez, il y a un an, un sondage qui dit que près de 3/4 des Lyonnais ne supportent plus leur maire, c'est quand même qu'il y a un malaise, c'est quand même qu'il y a un problème. Et même s'il a commencé à mettre une cravate, ça ne veut pas dire que... derrière, les problèmes de fond sont réglés pour les Lyonnais. Donc voilà aussi ce sur quoi on doit être vigilant. Et d'autres exemples, on peut en avoir.
Bien sûr. Alors, justement, de votre poste d'observation, qui est un poste à la fois d'opposant au conseil municipal, mais de maire d'arrondissement, on parle beaucoup aussi aujourd'hui des questions et des enjeux autour du pouvoir, de la démocratie et des maires d'arrondissement. Il y a notamment une possibilité de revoir ce qu'on appelle la loi PLM pour essayer peut-être de donner plus de place aux élus, aux maires, etc. Est-ce que vous êtes senti parfois un peu frustré de ne pas avoir les moyens? Parce que ce que nous disent souvent des élus d'arrondissement, c'est les habitants viennent nous voir, mais c'est pas nous, on n'a pas les moyens, pas forcément le pouvoir, pas le budget. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faudrait changer pour peut-être réintéresser le citoyen à la vie publique?
Alors déjà, moi je vais vous dire, comme je me suis présenté à la mairie du 2e arrondissement, je savais quelles étaient les compétences d'un maire d'arrondissement. Oui, c'est pas la même que celle d'un maire de plein exercice. On n'a pas le même rôle. Notre rôle, c'est d'être justement la courroie de transmission entre les citoyens et les différentes collectivités qui régissent notre territoire. Et donc, de ce point de vue-là, j'avoue que je suis pas forcément frustré puisque j'ai été élu pour un poste auquel je m'attendais. Alors, je comprends qu'il y en ait d'autres qui aient vu autre chose. Malheureusement pour eux, je suis pas certain qu'ils soient présentés à la bonne élection si c'est le problème. Après, encore une fois, ce qui fait que votre territoire évolue, c'est aussi lié à la personne que vous êtes. Moi, j'ai aucun pouvoir à proprement parler en tant que maire d'arrondissement, mais pour autant, quand il s'agit d'aller installer une entreprise dans le deuxième arrondissement, je vais être le premier à prendre mon téléphone pour essayer de convaincre le porteur de projet ou le chef d'entreprise de venir sur mon territoire. Lorsqu'il s'agit d'aller récupérer des fonds, que ce soit au niveau de l'État pour restaurer un commissariat rue de la Charité, bah ça, je suis tout à fait capable de le faire. Quand il s'agit d'aller toquer à la porte de la région où je suis élu pour rénover un lycée, je suis tout à fait capable de le faire. Voilà, c'est ça aussi le rôle du maire d'arrondissement, c'est d'être le représentant de son territoire, d'aller chercher l'argent là où il est pour pouvoir le développer. Alors oui, moi j'ai pas une section d'investissement comme le maire de Lyon pour pouvoir rénover moi-même en direct une école. Mais quelque part, quand je regarde aussi ce qui s'est passé dans le plan d'investissement à la ville de Lyon, le deuxième est l'un des arrondissements où il y aura le plus d'investissement. Parce que mais c'est on négocie avec la mairie
pour avoir des choses. Un arrondissement qui est très, enfin qui a une position par essence centrale, etc., concerné par des tas de sujets. Quand on parle de la Presqu'île, quand on parle des quais de Saône, quand on parle des mobilités, vous êtes à chaque fois concerné. Quand on parle des commerces, hein, je sais que c'est un sujet que vous suivez. Vous avez fait, je crois, il y a pas longtemps, un questionnaire, une concertation pour savoir un petit peu comment ça avançait. Est-ce que c'est pas aussi un peu différent quand on est comme ça dans cette position centrale? Et d'ailleurs, vous n'avez pas l'impression parfois de subir un peu quelque chose qui arriverait de la mairie centrale parce que vous êtes au cœur de toutes les problématiques en
non,
fait.
Bah, bien sûr. Il y a des volontés justement de s'attaquer très fortement au centre-ville. Après, vous savez comme moi que l'attaque au centre-ville, elle est surtout dans une logique décroissante de la part de la mairie. C'est le centre-ville de Lyon et le poumon économique de l'agglomération. On est décroissant, donc on s'attaque au centre-ville de Lyon. C'est littéralement ce qui se passe, c'est assumé. On le voit au quotidien. Il n'y a pas de mauvaise surprise. D'ailleurs, il s'était fait élire pour ça. Mais regardez, un exemple tout simple. Moi, je me bats au quotidien pour que toutes les mobilités soient respectées. C'est-à-dire que vous soyez un cycliste, un usager de la trottinette comme je suis, un piéton ou un automobiliste, je veux que chacun puisse trouver sa place. Par exemple, on me dit souvent, tiens, le maire du deuxième est contre les vélos puisqu'il est contre la voiture. Non. Le deuxième arrondissement, on a créé 800 places de stationnement vélo. 800. Vous savez combien il y en a dans le huitième arrondissement, qui a trois fois plus d'habitants que le deuxième? Il y en a 77. C'est ça la réalité. C'est que nous, on arrive à avoir plus pour tout quand on se bat. Mais il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, sur lesquels évidemment la mairie avance dans sa logique de décroissance. Et donc, c'est là où on nous entend en opposition. Vous avez évoqué tout à l'heure le questionnaire que nous avions mené.
Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, vos commerçants et vos habitants?
Sur 4500 réponses, c'est étrange. Il y a plus de 80 à 85% de gens qui pensent comme nous, qui trouvent ça à la fois violent. Par exemple, la fermeture de la rue Grenette. On a zéro personne qui habite dans la rue Grenette qui souhaite la fermeture de la rue Grenette. À quelque part, on peut les entendre aussi. C'est leur bien. C'est eux qui ont payé, qui ont acheté leur bien ici. Et sur une décision de lutte contre l'automobile et surtout de logique de décroissance, on va venir les empêcher d'accéder à leur domicile. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe à la ville de Lyon.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète d'ailleurs? Parce que c'était vu par un certain nombre d'élus qui sont passés ici aussi à ce micro. La sensation exprimée par certains d'une sorte de perte un peu d'attractivité de Lyon, de prestige dans les différents classements, sur le tourisme, etc. C'est ça, c'est un sujet d'inquiétude pour vous?
Oui, c'est un très grand sujet d'inquiétude. Et le chiffre, moi, qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui du dernier recensement, où on voit qu'en fait, Toulouse est sur le point de dépasser Lyon. Lyon a été la troisième ville de France pendant des décennies. Et là, suite au mandat des Verts, on va être quatrième ville de France. On ne sera plus la troisième parce que cette logique de faire fuir les gens, de faire fuir les entreprises, de faire fuir les commerçants, elle aboutit. Et donc, on est dans une ville qui est en perte de vitesse. Il y a encore cinq ans, les entreprises venaient à Lyon pour s'installer, pour installer des directions nationales ou internationales. Aujourd'hui, non. On ne vient plus à Lyon parce qu'à Lyon, on ne peut plus se loger, on ne peut plus se déplacer, la ville est sale. Tout ça, malheureusement, ça concourt à déclasser Lyon. Et encore une fois, il n'y a pas eu de mensonge. Ils se sont fait élire en proposant ce programme politique qu'ils mettent en place. Donc il n'y a pas eu d'escroquerie. Mais par contre, on a le droit d'être en opposition de fond sur ce sujet. Donc c'est pour ça que nous, je vous le disais tout à l'heure, on va justement proposer de créer une nouvelle ère sur Lyon.
Mais est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, quand on parle d'un certain nombre de sujets en lien avec la pollution, avec l'urgence climatique, avec les transitions qui sont une réalité, on est obligé d'être écolo pour faire de l'écologie, ou est-ce que la droite a un discours réel sur l'écologie aujourd'hui, la transition écologique? On a l'impression que c'est pas forcément les sujets que vous abordez le plus facilement ou qu'on vous accorde facilement. Est-ce que c'est pas ça, aussi ça qu'il ça, faudrait c'est... faire pour
non, un... non, mais on est d'accord. Je pense que l'écologie n'appartient à aucun parti. On fait tous de l'écologie. La réalité, c'est que l'écologie qui est menée, l'écologie de la décroissance, je pense que c'est une bombe sociale. Et je pense que c'est totalement insupportable pour la population. Et d'ailleurs, je pense objectivement que ce qui est fait aujourd'hui n'a absolument pas d'impact sur l'environnement. Regardez, à mon sens, l'une des principales causes des émissions que l'on a, ce sont les importations que l'on a de Chine. Et si on voulait lutter efficacement contre ces importations, on se mobiliserait tous collectivement pour réindustrialiser au maximum notre territoire. La région le fait. Et d'ailleurs, la région est la région de France où il y a le plus d'entreprises qui se réinstallent en France. Près d'un projet sur deux se fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est parce que, justement, on met des politiques publiques en face qui nous permettent de le faire. Là, la logique de la décroissance qui est menée dans la métropole de Lyon nous amènera jamais à, justement, lutter contre ces importations massives avec de la production locale. Donc voilà une vraie différence. C'est là d'ailleurs toute la différence entre l'écologie punitive d'un côté et l'écologie positive que nous portons de l'autre côté. Les gens ont envie d'écologie. La planète a besoin d'écologie, mais elle a besoin d'une écologie intelligente qui intègre toute la population, qui n'exclut pas tout le monde et qui laisse personne sur le bord de la route. Et c'est ce qui se passe malheureusement à l'inverse avec la ville et la métropole.
Eh bien, on parlera de tout ça et puis évidemment des européennes et un peu de 2026 dans une troisième partie de notre émission. À tout. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission L'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1ère et toujours avec vous, Pierre Oliver. Je rappelle que vous êtes maire du 2e arrondissement, conseiller du groupe d'opposition municipale à Lyon, conseiller régional. On parlait évidemment de politique avec vous. Alors, parmi les sujets que vous évoquiez, on était sur la construction de ce costume d'opposant, etc., et de la notoriété nécessaire. Vous êtes quelqu'un qui est arrivé récemment, vous avez fait le choix d'être beaucoup dans la discussion, dans les médias, d'être quelqu'un d'assez accessible, etc. Est-ce que ça a permis de combler le déficit de notoriété qui est le vôtre? Moi, j'ai le souvenir par rapport à, je crois, au moment du mi-mandat où, effectivement, Grégory Doucet, qui est quelqu'un de clivant, était connu presque à 87% par les Lyonnais. Et vous étiez le deuxième, mais quand même assez loin derrière. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment un combat aussi de l'image et de la notoriété qui est utile au-delà des projets?
Je suis d'accord, la notoriété, c'est un enjeu fort en politique. Et après... Quand on est maire de la troisième, peut-être demain de la quatrième ville de France, ça aide à de la notoriété, puisque dès qu'il y a un bulletin municipal, dès qu'il y a la possibilité de communiquer une information, vous avez la puissance financière de la collectivité qui aide à votre notoriété. Et puis lui, surtout, c'est ses positions un peu particulières, faut bien le reconnaître, qu'ils l'ont fait connaître, sa lutte contre le Tour de France, ses pistes cyclables genrées, ses urinoirs inclusifs, c'est ça qui l'a fait connaître, parce que les gens étaient tellement interloqués en se disant « Mais de quoi il parle? On voit même pas ce qui se matérialise derrière cette piste cyclable genrée. » Mais pour autant, voilà, je pense que la notoriété aussi, elle arrive au moment des municipales. Elle vient parce que... Il y a de plus en plus de débats, les gens parlent justement de cette élection, et c'est à ce moment-là que votre notoriété arrive.
Il y a une sorte de paradoxe d'ailleurs en ce moment, c'est-à-dire qu'on parle à la fois des sujets municipaux, on vient de finir le bilan de mi-mandat, on est déjà dans des futures élections, on parlera dans quelques instants des européennes, et en même temps on a l'impression que les esprits commencent déjà à se tourner vers 2026. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est un peu tôt, pas trop tôt? On a reçu ici quelques candidats. Alors, je crois, à droite, on avait reçu Christophe Marguin. Je ne sais plus trop de nouvelles de Christophe Marguin. Peut-être qu'il est encore candidat. On avait reçu aussi Béatrice de Montille, que vous connaissez certainement. Est-ce que c'est intéressant, d'ailleurs, que dans votre famille, il y ait comme ça des personnes qui se disent « Tiens, moi aussi, j'ai envie de participer à tout ça ». Bien sûr, ou est-ce que c'est un peu tôt, y compris même pour vous?
Non, je pense que tout le monde est focalisé maintenant sur 2026. On est à 2 ans du scrutin, c'est normal qu'on soit pleinement investi sur les élections. D'ailleurs, je rappelle que le maire de Lyon a annoncé sa candidature il y a 2 ans.
Donc, c'est ce qui était assez rare dans le microcosme, mais inhabituel en tout cas.
Quand on fait ça aussitôt, c'est que généralement, on est inquiété en interne, et donc c'est pour ça que lui a été obligé de le faire tôt, je pense. Non, vous savez, la concurrence, elle est saine. Qui en est à la ville, il y en aura beaucoup à la métropole aussi, hein. Le nombre de personnes qu'on entend aujourd'hui qui potentiellement peuvent être candidats à la métropole.
Est-ce que
je pense que c'est sain. Non, mais je pense que la concurrence est saine aussi. C'est pas parce que vous avez plusieurs personnes qui ont envie de prétendre à l'investiture que derrière on est divisé. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, personne n'a le droit de se présenter. Enfin, ça marche pas comme ça. Au contraire, heureusement, plus il y a de gens qui s'intéressent à ce scrutin, plus derrière, ça crée une dynamique, parce que vous prenez quelqu'un comme Christophe Marguin que vous évoquiez tout à l'heure, il va toucher des personnalités que moi je ne touche pas. Et moi, peut-être de par mon âge, ou je ne sais pas, je vais aussi toucher une catégorie de population que lui ne touchera pas. Et c'est en s'unissant tous qu'on arrivera demain à tourner cette page écologiste. Et donc, pour moi, c'est assez sain d'avoir de la concurrence. Après, voilà, moi je vous dis, on verra aussi qui sera désigné et qui sera le candidat pour notre famille politique.
Alors par rapport à justement cette candidature ou ce sujet, je voulais vous votre avis aussi, parce qu'on parle évidemment beaucoup des municipales à Lyon. On parle un peu moins des métropolitaines, parce qu'en fait les gens connaissent sans doute moins et les compétences de la métropole, pourtant elles sont nombreuses, les budgets, etc. Est-ce que pour vous le combat ville entre guillemets et métropole est le même? Il faut que vous vous coordonniez, c'est les mêmes dynamiques, c'est le même type de projet?
C'est essentiel. Je suis convaincu que la campagne municipale et la campagne métropolitaine sont sur la même ligne, et d'ailleurs ça a été une erreur qu'on a fait nous, la droite, la dernière fois. C'est-à-dire que vous aviez deux campagnes totalement dissociées, celle de François Noël d'un côté, celle d'Étienne Blanc de l'autre. Et voilà, les gens, moi je me souviens
François
très
Noël
bien.
Buffet, hein, qui est François Noël Buffet, tous les deux sénateurs, d'ailleurs président de la commission des lois.
Moi j'ai souvenir le jour du vote de gens qui nous disaient, mais où est la liste de François Noël Buffet à la ville? Où est la liste de Étienne Blanc à la métropole?
C'était la première fois qu'on votait aussi en direct.
Oui, mais
d'ailleurs, il y avait une discussion de la même manière qu'on voulait envisager de travailler sur la loi PLM. Il y avait une suggestion qui est portée d'ailleurs par Étienne Blanc, vous l'avez cité, et je crois Alexandre Vincendé, pour peut-être modifier le mode de scrutin métropolitain. Est-ce que pour vous, pareil, c'est une bonne idée? C'est trop tôt? C'est pas le moment? Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Modifier les scrutins à un an et demi des élections, honnêtement, moi j'avoue qu'à titre personnel, je trouve ça pas forcément la priorité. Après, y a une chose qui est importante à la métropole, c'est la représentativité des maires. On sait que en France, les intercommunalités au sens large, c'est justement le regroupement de chaque commune qui mutualise des moyens pour pouvoir mener des politiques publiques. Là, la métropole de Lyon, malheureusement, la plupart des maires n'y siègent pas et donc ne sont pas en mesure de porter aussi facilement que cela des projets qui pourraient intéresser leur territoire. Après, encore une fois, je pense que le sujet de fond, c'est le programme qui sera proposé à la ville et à la métropole qui permettra aux gens de se décider. Et c'est là le fond du sujet, parce qu'on parlait tout à l'heure des hommes ou des femmes. Objectivement, ce qui va le plus compter, c'est le fond du programme, c'est tiens, je m'identifie à telle proposition et donc je vote pour telle liste ou pour tel regroupement d'ailleurs, parce que je pense que au-delà de ça, il y a les idées et l'union large qui sera réalisée, qui nous permettra en tout cas à nous de l'emporter.
Et c'est vrai aussi que avant les municipales, il y a une autre échéance. Alors c'est vrai que on en parle peu ou pas assez, ou d'ailleurs, est-ce qu'on en parle suffisamment selon vous? C'est les élections européennes qui ont lieu quand même le 9 juin, c'est-à-dire ça vient très vite, qui visiblement, quand on regarde les sondages, n'est pas la préoccupation principale des citoyennes et des citoyens. Pourtant, il y a plein de sujets, y compris sur les questions de sécurité, d'immigration, qui sont vraiment en lien avec les élections européennes. Est-ce que pour vous, c'est un scrutin important? Et qu'est-ce que votre famille politique a à dire sur ce sujet?
C'est un scrutin majeur. C'est paradoxal, parce que c'est vrai que dans l'opinion publique, c'est pas le scrutin qui mobilise le plus, mais paradoxalement, c'est celui qui a le plus d'impact sur notre vie quotidienne. Et moi, ce que je note avec ce scrutin des européennes, c'est que les trois partis qui ont gagné la dernière fois, les trois premiers, c'est-à-dire le Front National, enfin le Rassemblement National, la majorité présidentielle et les écologistes, ils n'ont eu aucun résultat. En 5 ans, Bardella était tellement absent qu'il n'a pas pu proposer la moindre loi. D'ailleurs, son surnom là-bas, c'est Bardépala. Vous avez Renaissance, qui était un groupe d'appoint Un coup je vote avec la gauche, un coup je vote avec la droite, mais en réalité, aucune proposition sérieuse n'a pu être proposée par le groupe Renew, qui est le nom du groupe au Parlement européen. Et les écologistes, bah pareil, ils étaient tellement en minorité qu'en réalité, il s'est pas passé grand-chose. Les deux seuls camps qui ont réellement travaillé, qui ont proposé des amendements, des lois, et qui sont intervenus au Parlement européen, ce sont d'un côté les socialistes et de l'autre les républicains. Alors vous allez me dire, c'est paradoxal, c'est pas ceux qui avaient le plus été confortés par le peuple français la dernière fois. Mais pour autant, vous prenez moi le candidat que je soutiens, François-Xavier Bellamy, il a porté plus de 1300 amendements, je crois, au Parlement européen. Il a travaillé sur 52 textes. Enfin, voilà, ça c'est la réalité. Aucun des autres camps en face, à l'exception de certains socialistes, je l'évoquais, n'a travaillé comme ça. Et donc on voit que là, dans les sondages qui nous sont proposés à l'heure où on se parle, eh ben c'est ces gens qui n'ont rien obtenu pour la France, qui vont retourner au Parlement européen. Ah, c'est vrai que c'est un côté frustrant quand on fait de la politique, parce qu'on se dit voilà, nous on travaille, on essaye d'apporter de vraies mesures fortes. Enfin moi je vois François-Xavier Bellamy a beaucoup travaillé sur toutes les questions énergétiques pour que justement les intérêts de la France soient préservés. Ben oui, mais quand vos députés français ne sont pas dans votre camp et ne vous aident pas, bah c'est les intérêts allemands, les intérêts espagnols, italiens qui passent avant nos intérêts. Et ça, malheureusement, je pense que c'est regrettable. Et à mon sens, c'est là où aussi on doit se poser les bonnes questions pour que l'Europe soit forte. Bah il faut que ce soit, à mon sens, des parlementaires européens qui soient dans les partis en mesure de l'emporter. Et ce qu'on voit dans les différents sondages dans les 27 pays qui composent l'Union européenne, bah c'est que la droite, le PPE, est majoritaire, en tout cas en intention de voix, et que donc demain, bah, si on veut que la voix de la France porte, il faut aussi que la droite française soit largement représentée au Parlement européen pour qu'on puisse justement bah, travailler sur ces sujets de fermeture des frontières de l'Union européenne et de sécurisation de l'Europe, pour qu'on puisse travailler sur ces questions énergétiques qui sont si essentielles. Et d'ailleurs, on l'a vu durant cette période où le nucléaire français a été détricoté pendant 10 ans et où, à quelque part, ben, l'Europe a pris des dispositions qui allaient à l'encontre de nos intérêts nationaux, ben, je pense que voilà, ce scrutin a une vraie importance pour nous. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis pleinement engagé derrière la liste de ma famille politique.
Alors, c'est amusant parce qu'il y a un curieux hasard de calendrier, parce que je crois que dimanche, c'est-à-dire demain, il y a un meeting à Confluence à H7 de Glucksmann. Est-ce que vous avez été invité en tant que maire du deuxième? Je suppose que vous n'irez pas forcément au meeting, vous avez d'autres choses à faire demain?
Non, voilà, moi demain, j'irai pas très loin de là d'ailleurs, puisque je vais sur le marché Bayard, qui est un joli petit marché du secteur de Sainte-Blandine dans le deuxième arrondissement. Et c'est vrai que les dimanches, c'est souvent un moment où on peut prendre le temps sur le marché d'échanger un petit peu avec les uns et les autres sur les problèmes du quotidien. Et moi, en tout cas, en tant que maire, c'est vraiment quelque chose auquel je
vous
suis
tenez.
Attaché.
Et on vous parle, je suppose, parce que c'est une petite question que je voulais vous poser, parce que notre invité précédent l'avait lancé un peu comme une mini-pique. Je suppose qu'on vous a parlé, même si elle date un peu, de votre... On parlait de notoriété, de votre participation à une émission avec Cyril Hanouna notamment. Est-ce que ce genre de présence dans des émissions qui sont un peu contestées, alors je crois qu'on avait vu Grégory Doucet chez Quotidien, me semble-t-il, et vous chez Hanouna, est-ce que ça veut dire que il faut aller parler partout, en tout lieu, à tout le monde? Et comment vous verrez ça, cette notoriété un peu contestée par certains?
Bah, moi, objectivement, je suis convaincu qu'il est essentiel d'aller parler dans tous les médias. Moi, je vois bien, hein, toute la gauche aujourd'hui se refuse d'aller sur Europe 1, sur CNews, parce que ils ne sont pas forcément, de leur point de vue, représentatifs de leurs idées. Enfin, moi, ça m'empêche pas, demain, je l'ai fait il y a pas longtemps, de répondre à Libération ou à d'autres magazines, journaux, émissions qui ne sont absolument pas de mes convictions personnelles. Parce que quand vous portez une conviction, quand vous portez une idée, faut que l'ensemble des concitoyens soient en mesure de l'entendre. Donc pour moi, c'est tout à fait légitime d'aller dans tous les médias pour justement défendre mon point de vue. Moi, je l'assume, je ne suis pas là pour me planquer, je ne suis pas là pour dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Hein. Il y a des partis politiques qui sont experts là-dedans. Moi, ce n'est pas mon cas. Et en tout cas, j'estime que chaque média doit avoir aussi des réponses de notre famille politique. Et d'ailleurs, jamais vous avez entendu les Républicains dire « on va boycotter tel ou tel média ». Et je pense que ça... C'est important parce que, d'ailleurs, vous pouvez avoir, par exemple, des concitoyens de gauche qui peuvent nous entendre, par exemple, je sais pas moi, parler de laïcité et qui peuvent se sentir aussi touchés, puisqu'on sait que la gauche, avant d'être un peu noyée dans le communautarisme comme ils le font aujourd'hui, notamment la France insoumise, bah, elle était l'un des représentants majeurs de la laïcité. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, nous, la droite, on est peut-être plus les porteurs de la laïcité que la gauche. Et ben voilà, en allant parler à une partie de ces électeurs dans la presse qui est lue par ces personnes-là, je pense qu'on peut aussi gagner demain. Et si on veut gagner, ben il faut rassembler large et faire savoir ses idées, parce que il peut y avoir du bon partout. Et donc, en tout cas, moi, c'est pour ça que
vous allez un peu partout. Et du coup, on vous en a beaucoup parlé, ce qui est, j'imagine, à votre notoriété. Alors, le dimanche, je suppose que vous prenez aussi un peu de temps pour vous. Je sais que vous êtes très branché sur un certain nombre de sujets, de sport, etc. Je crois que ce soir, il y a un match de l'OL. Est-ce que vous suivez avec attention, quoi, plus le Loup, plus l'OL, plus le sport en général? Est-ce que l'ASVEL, vous êtes un peu partout dans de nombreux lieux?
Ah, je reconnais, hein, je l'avais déjà dit à votre antenne la dernière fois, moi c'est vrai que l'OL c'est toute ma vie.
Ça se passe
J'aime
mieux
beaucoup,
en ce moment.
Ça va mieux, hein, oui. Ça va mieux, je regarde beaucoup l'OL, le Loup, tous les sports objectivement, la Formule 1. C'est d'ailleurs un point commun qu'on a avec Sébastien Michel, le maire d'Écully. C'est vrai qu'on est des vrais passionnés de sport et on aime beaucoup...
Il court peut-être un peu plus que vous. Non,
je fais plus de vélo que vous, donc voilà. Ça s'équilibre l'un dans l'autre, mais voilà, disons que... On aimait même Jérémy Bréau, d'ailleurs, le maire de Bron, est un grand passionné de sport. Donc c'est vrai que quand on commence nos bureaux politiques...
Il y a toujours un petit débrief.
Il y a toujours quelques phrases autour des matchs précédents.
Alors en un mot, parce qu'on est allé très vite, peut-être juste un livre de chevet, qui est souvent une question que je pose à un de mes invités, puis un morceau pour se quitter en musique. Qu'est-ce que vous avez choisi?
Alors un livre, c'est... Vous savez, on l'avait déjà dit lors d'une précédente émission, moi j'ai grandi en Roumanie. Et il y a une grande biographie de Ceaușescu qui est sortie en français, et donc que j'ai lu récemment, qui est très intéressant d'ailleurs pour comprendre un petit peu comment les communistes sont arrivés au pouvoir en renversant le système et en emmenant d'ailleurs tous ces pays de l'Est dans le mur. Et ça, c'est vrai que ça a été un livre très intéressant. Et si je devais terminer par une musique, j'ai envie de vous dire Miley Cyrus.
Ouais. C'est toujours. Flowers, c'était le cas la dernière fois, mais vous êtes fidèle et constant avec ça.
Voilà.
Un grand merci pour votre présence, Pierre Oliver, et pour vos projets, et puis donc pour 2026, puisqu'on a compris que vous y travaillez ardemment. La semaine prochaine, toujours la curiosité de la programmation, on recevra Najat Vallaud-Belkacem. À très vite. Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+.
Lyon Première.